Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 7 septembre, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. C'est la 23e entre vous et nous, c'est donc une longue histoire, une semaine d'actualité, une émission destinée à vous offrir quelques clés de compréhension de cette actualité, quelques repères. Aujourd'hui, grâce au reportage de la rédaction, nous allons nous rendre à Hong Kong, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud ou au Zimbabwe par exemple. Nous sommes cette semaine en compagnie d'Antoine Madelin, le directeur du plaidoyer de la Fédération internationale des droits humains, la FIDH. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez aussi écouter sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr, sur l'application RFI Pure Radio et à la page Une semaine d'actu de Facebook. Bonjour Antoine Madelin.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro. Vous êtes donc directeur de plaidoyer à la Fédération internationale pour les droits humains, la FIDH. D'abord un mot de présentation de la FIDH. Petit rappel.
Bien sûr.
De cette vénérable institution.
Une vénérable institution qui est bientôt centenaire, hein, qui aura 100 ans en 2022. C'était la première organisation internationale de défense des droits humains qui a été constituée en 1922, juste après la Première Guerre mondiale, avec la Ligue des droits de l'homme en France et quatre autres organisations. Et aujourd'hui, la FIDH est une organisation qui fédère 184 organisations de défense des droits humains dans plus d'une centaine de pays, et qui a un secrétariat basé à Paris, des représentations aussi auprès des Nations Unies, à New York, à Genève, des délégations auprès de la Cour pénale internationale, sur le terrain aussi, des antennes pour venir en soutien à des associations de défense des droits humains de par le monde, des militants, en essayant de faire le pont pour eux entre des situations locales et la communauté internationale.
Alors certains auditeurs doivent se demander, mais qu'est-ce qu'un directeur de plaidoyer?
C'est celui qui fait le lobby.
Vous êtes donc un lobbyiste.
Exactement, voilà, ouvertement déclaré. Je suis une personne qui organise au sein de notre structure la mobilisation de toute l'action de la FIDH auprès des Nations Unies, auprès de l'Union Européenne, auprès des ce que l'on appelle les leviers d'influence. Quand on a une situation de violation des droits de l'homme, que nos associations sur le terrain n'arrivent pas à résoudre ces situations face à leur en face de leurs propres autorités, on a recours à des mécanismes internationaux ou à la communauté internationale pour essayer d'intervenir.
Alors Antoine, l'actualité va nous donner hélas encore l'occasion de parler de violations de droits humains. Est-ce que vous avez des pays que vous suivez avec beaucoup plus d'attention que d'autres ?
Ben, je pense que ceux qui sont à l'actualité cette semaine sont à notre actualité malheureusement. Notre première priorité, notre premier angle d'approche, c'est de regarder la situation des défenseurs des droits humains sur le terrain. Comment vivent et comment peuvent opérer ces personnes qui sont des agents de changement dans leur propre pays? Quelles sont leurs capacités d'action? Quelles sont les marges de manœuvre dont ils disposent? Et est-ce qu'ils peuvent intervenir et faire changer les sociétés dans lesquelles ils évoluent? C'est notre première priorité et on pourra voir aujourd'hui en tout cas comment dans l'ensemble de ces pays ils sont à l'œuvre.
Alors justement, puisque nous allons parler des droits humains, Antoine Madelin, intéressons-nous tout de suite à la situation au Yémen. Meurtres, actes de torture, enlèvements, viols et bombardements indiscriminés. La liste d'exactions dans la guerre qui ensanglante le pays ne fait que grossir. Dans l'indifférence générale, il faut bien le dire, un nouveau rapport des Nations Unies dénonce des crimes de guerre et des violations massives des droits de l'homme, aussi bien d'ailleurs par la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite que par les rebelles Houthis. L'ONU insiste particulièrement sur la responsabilité particulière des pays qui fournissent des armes aux acteurs du conflit à Genève, Jérémy Lange.
La souffrance, et ce peut être un bien faible mot, de la population yéménite atteint des niveaux sans précédent.
Le président du groupe d'experts de l'ONU, Kamal Gendoubi, l'affirme, il n'y a pas aujourd'hui un seul endroit qui peut être considéré comme sûr au Yémen. Il y a quelques jours encore, c'est une prison tenue par les Houthis qui a été prise pour cible par un bombardement, bilan 130 morts environ. Selon un autre expert, Charles Garraway, la question des armes et de leur provenance ne doit pas être sous-estimée si on veut mettre un terme au conflit.
There are certain states who are well known On sait que certains États vendent des armes aux acteurs du conflit, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, pour n'en citer que trois. L'Iran, de son côté, fournirait des armes aux Houthis. Notre rôle n'est pas de lister ces pays. Mais comme disait Jean Pictet, un ancien membre du comité de la Croix-Rouge, si vous voulez arrêter la guerre, confisquer les jouets.
Comme lors de son précédent rapport, le groupe d'experts a identifié plusieurs personnes susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre. Leurs noms ont été transmis à la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, sauf qu'aucune juridiction n'existe aujourd'hui pour juger les auteurs de crimes commis au Yémen.
Alors Antoine Madelin, on commence avec un dossier particulièrement douloureux. J'ajoute que dimanche, par exemple, les bombardements saoudiens auraient fait plus de 100 morts. J'ajoute également qu'il y aurait des pourparlers entre les États-Unis et les Houthis. Washington, d'ailleurs, a confirmé. Vous êtes en pointe, FIDH, sur ce dossier, et notamment sur la question des ventes d'armes.
Oui.
Aux belligérants.
Oui, pour deux raisons. Premièrement, les Nations Unies ont démontré comment cette guerre est une absolument sale guerre, que des crimes contre l'humanité sont commis sur le terrain. Et ce qui veut dire que n'importe quel État qui fournit des armes aux parties belligérantes se rend complice de la commission de ces crimes. Il y a au niveau international des traités qui ont été adoptés pour empêcher ce genre de fourniture d'armes. Et la France en particulier, le Royaume-Uni, sont partis à ces traités. Ils sont soumis à des obligations internationales selon lesquelles elles ne vendront pas d'armes s'il y a un risque, et je précise s'il y a un risque, que celles-ci sont utilisées pour commettre des violations graves des droits humains. Aujourd'hui, nous avons dénoncé depuis maintenant le début du conflit la complicité et la participation finalement indirecte des autorités françaises à cette guerre, puisque
malgré les démentis du gouvernement français.
Alors malgré les démentis, en réalité, des armes françaises et de l'équipement français se trouvent sur le terrain. De l'équipement français a été vendu après le début de la guerre au Yémen, mais les autorités françaises disent que elles ont obtenu l'assurance des autorités soit saoudiennes, soit des Émirats arabes unis, que celles-ci ne seraient utilisées qu'à des fins défensives. Donc il y a tout un débat juridique pour savoir si ces armes sont utilisées de quelle manière. En réalité, le risque que celle-ci soit utilisée pour commettre des crimes est avéré. Et c'est ce qu'a dit une haute cour de justice à Londres en réponse au gouvernement britannique et en interdisant les ventes britanniques aux parties belligérantes, en disant au Royaume-Uni que le risque est tel qu'il faut suspendre toute vente. En France, on attend encore que des décisions soient prises. Je ne sais plus combien de temps encore on peut véritablement attendre, mais il faut dans tous les cas envisager une action contentieuse pour pouvoir poursuivre les autorités françaises. Une a été introduite par une association à Serres en France qui demande à un tribunal administratif d'intervenir en la matière.
Partons pour le Royaume-Uni maintenant, Antoine Madelin. Rarement un Premier ministre a vécu un revers aussi cuisant que celui qu'a subi Boris Johnson cette semaine. Le nouveau chef du gouvernement s'est pris une série de gifles mercredi à la Chambre des communes. Il a même échoué dans son projet de la dissoudre pour se sortir de l'impasse. Les députés ont rejeté dans la soirée la motion qu'il avait soumise à leur vote, destinée à organiser des élections anticipées le 15 octobre prochain. Tout cela au terme d'une journée décidément catastrophique pour le chef du gouvernement à Londres, Muriel.
Défaite sur toute la ligne pour Boris Johnson. Non seulement les députés de l'opposition, rebaptisés à la façon de Star Wars, l'Alliance Rebelle, ont réussi à faire adopter aux communes leur projet de loi pour empêcher une sortie sans accord, mais ils ont aussi refusé d'approuver la proposition d'élection anticipée du Premier ministre, ce qui a été accueilli par ce commentaire acerbe et moqueur de Boris Johnson.
Je pense que Jeremy Corbyn est le premier leader de l'opposition dans toute l'histoire démocratique de notre pays à refuser l'invitation à une élection. Et j'en conclus que c'est parce qu'il ne pense pas qu'il peut la remporter.
En réalité, le dirigeant Labour, Jeremy Corbyn, avait un peu plus tôt expliqué pourquoi son parti rejetterait l'offre du gouvernement.
L'offre d'une élection aujourd'hui est un peu comme l'offre de la pomme de la méchante sorcière à Blanche-Neige. Car ce qu'offre Boris Johnson est en fait le poison d'un no deal.
Les travaillistes ne font absolument pas confiance au chef du gouvernement et, soutenus par les autres partis d'opposition, préfèrent s'assurer d'abord que leur loi contre un no deal soit adoptée avant de relever le défi de Boris Johnson. Le Premier ministre, qui ne va pas manquer de chercher très rapidement un autre moyen de revenir à la charge et semble déjà tester ses slogans de campagne, accusant l'Alliance rebelle de capituler face aux Européens.
Direction l'Italie maintenant, Antoine Madelin. L'Italie qui a un nouveau gouvernement improbable, fait de l'union du mouvement 5 étoiles et du parti démocrate, plutôt de centre-gauche, à Rome, mercredi, Anne Trecca.
Un gouvernement officiellement ni de droite ni de gauche, mais destiné à protéger les familles et le travail. C'est ainsi que Giuseppe Conte présente sa nouvelle équipe, 10 ministres 5 étoiles, 9 démocrates, pour un recentrage de l'Italie dans des politiques plus sociales. Un poids lourd du nouveau gouvernement vient d'ailleurs du Parlement européen. C'est le démocrate Roberto Gualtieri, président de la Commission des affaires économiques à Strasbourg, qui devient ministre de l'économie et des finances à Rome. Fin connaisseur des contraintes et des opportunités de l'Union européenne, il devrait, par sa personnalité, rassurer les partenaires et les créditeurs de la péninsule. Du côté des 5 étoiles, l'imprévisible Luigi Di Maio arrive aux affaires étrangères, un lot de consolation pour avoir perdu le titre de vice-premier ministre qu'il partageait avec Matteo Salvini. Le nouveau programme du gouvernement annonce un changement de route substantiel de l'Italie sur au moins 2 points. La politique économique ne laissera plus s'emballer la dépense publique et l'immigration sera gérée avec davantage d'actions en faveur de l'intégration des nouveaux arrivants et une concertation européenne.
Suite à une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie du directeur du plaidoyer de la FIDH, Antoine Madelin, autrement dit le lobbyiste en chef, mm-hmm. Je ne sais pas si on peut dire des choses comme ça. Ironiquement, vous vouliez dire un mot sur la situation inextricable sur le plan politique désormais en Grande-Bretagne?
Oui, je pense que la Grande-Bretagne, d'ailleurs aussi comme l'Italie, démontre les crises que nous traversons aujourd'hui dans la démocratie. Au nom de, après, le développement économique effréné et qui a laissé derrière lui une situation sociale catastrophique. C'est une situation qu'on retrouve à la fois dans ces deux démocraties, mm-hmm. l'Italie et le Royaume-Uni, et dont les conséquences sont particulièrement dangereuses pour les droits humains. Et c'est ça que je voulais souligner. Finalement, au Royaume-Uni, quand on prend l'exemple du Brexit, d'abord en regardant la manière avec laquelle les élections ont eu lieu pour voter le Brexit, avec un vote pour quitter l'Union européenne qui s'est joué à 2%, les plusieurs enquêtes ont été menées, ont démontré comment Cambridge Analytica, avec un consortium canadien Aggregate IQ, était intervenu pour influencer la campagne. Des enquêtes ont avéré que le camp du vote Leave, pour quitter le Brexit, avait utilisé 40% de son budget de campagne pour financer Aggregate IQ, qui avait lancé des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux dans le Royaume-Uni et donc du coup influencer une population peu informée sur les aléas du vote. Et donc je pense que dans cette situation ça souligne véritablement la faiblesse finalement du jeu démocratique si nous n'avons pas des médias robustes et un encadrement et un accompagnement ou des lignes directrices appropriées pour l'utilisation des médias sociaux aussi dans de telles conditions. La deuxième question que cela soulève, et je la souligne aussi, indépendamment du fait que l'on veuille ou non joindre l'Union européenne, et c'est une campagne qu'a menée notre organisation au Royaume-Uni, Liberty, en quittant l'Union européenne, le Royaume-Uni se dessine la charte européenne des droits fondamentaux. Et donc, du coup, fait un pas en arrière en matière de protection de droits. Cette charte européenne qui a été mise en place par l'Union européenne apporte une protection plus importante des droits des personnes d'orientation sexuelle LGBTI, a permis à ce qu'au Royaume-Uni il y ait une égalité de traitement dans le cadre des mariages de personnes du même sexe. Il y a également permis et bénéficié à des personnes handicapées, donc permis des protections pour des personnes qui n'auraient pas eu, de par le droit britannique, une telle protection. Donc il y aura probablement un retour sur les droits. Et enfin, on voit là les dérives potentielles antidémocratiques que veut faire Boris Johnson. Les institutions européennes, et la Charte des droits fondamentaux en particulier, la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg, permettent aussi de contrôler ces dérives démocratiques. C'est ce qu'on a vu en Pologne, quand la Cour de justice de Luxembourg, qui est un tribunal administratif européen, a condamné la Pologne pour avoir organisé une réforme du système judiciaire qui allait contre les principes d'état de droit défendus par l'Union européenne.
Direction Hong Kong maintenant, dans cette édition d'une semaine d'actualité avec vous Antoine Madelin. L'exécutif du territoire a en effet accédé mercredi à une demande clé des manifestants. Il a annoncé par la bouche de Carrie Lam, sa chef, le retrait du projet de loi sur les extraditions à l'origine du mouvement de contestation. Une concession qui apparemment ne va pas suffire à apaiser la grogne. Reportage de notre envoyé spécial Stéphane Lagarde.
Révolution de notre temps, libérer Hong Kong. Quelques heures après le retrait de la loi d'extradition, les slogans sont de retour devant le Parlement hongkongais. Pour cette conférence de presse improvisée à la nuit tombée, les orateurs portent cagoule et casque de chantier. L'annonce de Carrie Lam ne les a pas satisfaits. C'est un pansement sur une plaie à vif, explique-t-il. Rob Tyler, Gina, travaille dans une multinationale de l'une des tours de verre du quartier.
Si elle avait retiré la loi il y a 3 mois, tout le monde aurait été content. Maintenant, on voit des policiers frapper des civils dans le métro. Nous devons donc continuer à nous battre pour la justice.
Ce combat pour la justice, ces élèves en ingénierie civile rassemblés dans les rues commerçantes de Wanchai, non loin des institutions, y ont consacré tout leur été. Klaxon des automobilistes pour saluer la bonne nouvelle. Tom, 21 ans.
C'est une très bonne nouvelle. On s'est beaucoup battu pour ce résultat.
Un bon résultat, mais qui ne va pas assez loin, estime Andy Yep, 70 ans, retraité et joueur de football amateur dans un stade du centre-ville.
Hong Kong est devenu un état policier. La police est dans le métro, devant les écoles. Carrie Lam a fait de sérieuses erreurs.
Des erreurs que semblent prêts à pardonner les milieux d'affaires, seuls à se féliciter ouvertement de ce retrait de la loi, impatient de voir l'économie hongkongaise redémarrer.
Parlons maintenant de l'Iran, un autre pays qui vous intéresse, Antoine Madelin, qui intéresse la FIDH. Hélas, l'Iran qui durcit encore le ton à propos du nucléaire à Téhéran jeudi, Tiavash Ghazi.
Le président Rouhani a officiellement ordonné à l'Organisation iranienne de l'énergie atomique de prendre des mesures nécessaires en matière de recherche et de développement dans le programme nucléaire du pays. La décision de Téhéran intervient après d'intenses négociations avec la France au nom des pays européens pour donner des gages à l'Iran face aux sanctions américaines, notamment pour permettre à Téhéran d'exporter son pétrole et récupérer l'argent de ses exportations. Mais ces négociations n'ont pas abouti. Téhéran a donc décidé de franchir une troisième étape pour limiter ses engagements dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. La décision de Téhéran signifie que l'Iran va accélérer son programme pour développer de nouvelles centrifugeuses destinées à faire de l'enrichissement d'uranium. Cette annonce va encore accentuer le fossé entre l'Iran et les pays occidentaux. Téhéran a décidé de relancer son programme nucléaire pour répondre aux sanctions américaines qui frappent durement l'économie du pays, notamment en réduisant à zéro ses exportations pétrolières. L'Iran espérait faire pression sur les pays européens pour qu'ils prennent des mesures concrètes afin de contrer les sanctions américaines.
À noter aussi des échanges de tirs à la frontière libanaise entre Israël et le Hezbollah. Enfin, après avoir dévasté des îles des Bahamas où 30 personnes ont perdu la vie, l'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 2, a atteint la côte est des États-Unis en proie à des vents violents, des pluies diluviennes et des risques d'inondations mortelles à suivre également dans nos journaux. Antoine Madelin, reparlons de la situation en Iran qui vous interpelle. Et notamment, je crois, à propos justement de ceux qui veillent à la situation des droits de l'homme dans ce pays.
Oui, alors, je pense que cette situation, l'actualité aujourd'hui sur le nucléaire, révèle la crise du multilatéralisme aujourd'hui. Mm-hmm. Comment, avec après le fait que les Américains soient sortis de l'accord négocié âprement et de manière extrêmement complexe avec les Iraniens pour essayer d'encadrer et de permettre à la communauté internationale finalement d'encadrer le développement des programmes nucléaires iraniens. Et donc du coup aujourd'hui on assiste à une poursuite, un jeu voilà de poker entre les Américains et les Iraniens avec les Européens au milieu. Je trouve que d'un point de vue de droits humains, c'est une crise qui est tout à fait regrettable. Avant tout, d'abord sur la question nucléaire, si la communauté internationale s'intéressait plutôt à la question des droits humains plutôt que celle du nucléaire, elle aurait derrière elle toute une population iranienne en soutien à cette démarche-là. Ici, et c'est d'ailleurs ce que dit Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix, c'est ce que disent aussi la Ligue iranienne de défense des droits humains, les organisations membres de la FIDH. Ici, aujourd'hui, on renforce le nationalisme iranien et on renforce des populations, du coup, derrière le régime autocratique. Dans une situation où les défenseurs eux-mêmes sont empêchés de travailler. Nasrin Sotoudeh, qui est une avocate, qui milite pour les droits des femmes en Iran, est derrière les barreaux. Les associations de défense des droits humains ne peuvent opérer, etc. Donc, je trouve que cette crise est malheureuse, d'autant plus que les sanctions qui sont infligées par le gouvernement américain mettent la population dans une situation absolument catastrophique, en violation aussi des droits économiques et sociaux de cette même population, ce qui du coup exacerbe davantage l'animosité contre les Américains de la part de cette population, avec encore moins du coup de relais que l'on peut avoir sur la question des droits humains.
Les tensions politiques à Hong Kong, visiblement la situation s'est durcie et la décision récente de retirer ce projet de loi d'extradition ne calme pas les choses. La crise est plus profonde, semble-t-il.
Alors oui, l'annonce de Carrie Lam a été aussi faite après que des annonces dans la presse, des fuites dans la presse aient été faites. Un enregistrement de Carrie Lam et des fuités dans la presse dans lequel elle démontre ce que tout le monde savait, mais que elle était sous l'ordre des autorités chinoises. Que si elle n'avait pas subi des pressions, elle aurait déjà abandonné ce projet de loi depuis fort longtemps. Et donc, aujourd'hui, ce que Hong Kong, la population de Hong Kong fait, ce n'est pas de simplement regretter un projet de loi, c'est de se tenir contre le géant chinois, contre la dictature chinoise, qui aujourd'hui est en train d'intervenir de par le monde, au-delà d'ailleurs des simples îles proches de Hong Kong, mais proches de la Chine, mais au-delà intervient sur la scène internationale avec un agenda de développement économique qui bafoue totalement les droits sociaux, qui bafoue les droits humains, qui bafoue la liberté d'opinion et les libertés d'expression. Et moi, je vois dans la population hongkongaise un exemple, une vraie et véritable forme d'inspiration, parce que ce sont eux qui, par leurs propres moyens et leur ingéniosité, défendent aujourd'hui les droits humains à l'échelle planétaire.
Et les plus jeunes notamment.
Ce sont peut-être eux les derniers à se tenir face aux géants chinois.
Sept jours en France.
Avec un titre principal, nouvelle place d'hébergement d'urgence, procureur référent spécialisé, possibilité de déposer plainte à l'hôpital, le gouvernement a annoncé cette semaine, lors d'une vaste concertation, d'un Grenelle des contre les violences conjugales, annonce donc des premières mesures pour endiguer ce fléau, suscitant des réactions mitigées chez les associations. Marie Casadebé.
Les associations soulignent d'abord ce qu'il n'y a pas dans le discours du Premier ministre. Elles regrettent l'absence de mesures en faveur de l'éducation, l'insuffisance des créations d'hébergement, 1000 places supplémentaires, mais pas forcément adaptées quand les femmes qui ont fui le domicile conjugal pourraient se retrouver sous le même toit que d'autres hommes. Pas assez de concret, le Premier ministre annonce des audits sur l'accueil des plaignantes dans les commissariats et les gendarmeries. Le gouvernement aurait pu s'en passer, selon la présidente de la Fondation des femmes. Les associations savent très bien ce qui s'y passe. Et puis surtout, pas un mot sur le budget. Cela n'est pas le sujet pour Édouard Philippe, c'est beaucoup trop tôt pour la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes. Pour les associations, c'est au contraire une question centrale. Elles estiment qu'il faut plus de 500 millions d'euros pour faire avancer la lutte. Les militants notent tout de même des avancées, des mesures qui vont dans le sens de leurs attentes, et cela se passe surtout au niveau judiciaire. Des procureurs spécialisés seront nommés, des chambres d'urgence pourront traiter certaines affaires en 2 semaines, et un père soupçonné de féminicide se verra automatiquement suspendre son autorité parentale, et ce, dès le début de l'enquête. Pour le reste, les associations ont jusqu'au 25 novembre pour obtenir gain de cause.
Les élections municipales, c'est l'année prochaine en France. Ce sera un test pour La République En Marche, qui cherche à s'ancrer localement. Mais c'est mal parti à Paris. Dans la capitale, en effet, le mouvement d'Emmanuel Macron a 2 candidats. Cédric Villani a annoncé sa candidature mercredi, alors que Benjamin Griveaux est déjà en lice. Julien Chavanne.
Chers amis parisiens, chères amies parisiennes, quel plaisir de vous retrouver ici.
La broche en forme d'araignée et la lavalière sont de retour. Dans cette brasserie bondée de son quartier, Cédric Villani met fin à un faux suspense. Oui, il sera bien candidat à Paris. Et même s'il le fait contre la direction de son parti, il promet une campagne bienveillante.
Je la porterai avec bienveillance et liberté. Jamais dans l'attaque, mais toujours pour rassembler. Non pour critiquer, mais pour construire ensemble des solutions.
La République En Marche regrette sa candidature mais ne l'exclura pas. D'ailleurs, ses partisans ne se considèrent pas comme des traîtres. Pascal est marcheuse du 18e arrondissement.
Ah, moi, je ne suis pas dissidente d'En Marche puisque, en tant que marcheuse, je soutiens le président de la République.
Mais pour Richard, cet entre-deux ne tiendra pas.
Il ne restera pas République En Marche. D'ailleurs, l'esprit est trop libre pour être dans ce milieu sectaire, parce que c'est un milieu sectaire qu'on voyait. La bande de bras cassés que c'est. D'ailleurs, c'est un peu l'arroseur arrosé, parce que Macron était comme ça au départ. Il a trouvé quelqu'un à son niveau, quoi.
Malgré les déclarations d'apaisement, le duel entre les 2 candidats marcheurs s'annonce difficile. Un seul survivra. Benjamin Griveaux fait pour l'instant le dos rond. Ça ne change rien, c'est un effet médiatique, se rassure son entourage.
Suite à une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Madelin de la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains. Vous vouliez aussi réagir à ce que l'on a appelé le Grenelle contre les violences conjugales, contre ce fléau.
Alors d'abord,
100 femmes tuées depuis le début de l'année, semble-t-il.
C'est une réaction absolument nécessaire, attendue, peut-être tardive, mais fondamentalement importante. Aujourd'hui, en France, une femme sur 3 a été victime de violences sexuelles, ce qui est énorme. Et une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de quelqu'un. Mmh. Et face à cette criminalité très importante, ce que l'on appelle des féminicides, moins de 20% de ces femmes ne portent plainte. Donc il y a un véritable dysfonctionnement dans le système judiciaire et répressif français que ce Grenelle essaye de répondre.
Sans moyens,
alors,
pour l'instant.
Alors,
sans
voilà, trop de moyens. Auquel il essaye de répondre. Et en effet, je pense que beaucoup d'associations ont raison d'être critiques des propositions qui ont été apportées. Avant tout, pour dire que pourquoi est-ce que ce Grenelle ne porte que sur la violence conjugale, là où les violences sexuelles sont plus larges que simplement dans le simple foyer familial. Mais aussi parce que les véritables causes et les modalités vers lesquelles on peut essayer de répondre à ces problèmes ne sont pas véritablement prises en considération. Jusqu'à présent, et le Grenelle peut-être permettra d'autres choses, les programmes d'éducation dans les écoles ne sont pas prévus, là où il y en avait précédemment et ces derniers avaient été retirés. Donc il faudrait véritablement regarder dans la forme formation des enfants sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme, enfin qu'on enseigne aux enfants la diversité et le respect des femmes. Il y a également pour lutter contre l'impunité de ces crimes un effort fondamental à faire sur la formation des forces de l'ordre à la manière avec laquelle répondre à ces violences. Ce qu'on a aussi vu à la veille du lancement de ce Grenelle, c'est quand Emmanuel Macron a assisté
en direct à une conversation, en direct, à une intervention.
À une intervention, exactement, dans un appel dans un commissariat où le commissariat refusait de prendre la plainte. Et donc, beaucoup d'associations dénoncent ceci et demandent depuis le début que une formation, en tout cas, soit envisagée là-dessus. Donc, on peut espérer que le Grenelle y aboutira, ainsi que peut-être et probablement des demandes, des moyens financiers plus adéquats pour répondre à l'ampleur du phénomène.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire et c'est le retour des dédicaces, de vos messages, de ces clins d'œil que je vous adresse chaque semaine, chaque samedi. Un salut aujourd'hui donc à Damaba qui nous écoute à Karang dans la région de Fatick au Sénégal, à Prosper qui est lui étudiant en droit à l'université de Lomé. Bonjour à Jérémy à Kinshasa, à Stanislas à Baraka également en RDC. Bonjour à César Aimé à Lomé, à Alfaïdi à Conakry et à Poséidon Migon à Doba. Au Tchad.
Une semaine d'actualité.
Antoine Madelin, partons tout de suite pour l'Afrique du Sud, secouée ces derniers jours par des violences xénophobes durant 3 jours au moins et au moins 10 morts à ce jour. Reportage lundi à Johannesburg de Noé Hochet-Baudin.
Pendant 2 heures, plus de 500 personnes ont saccagé une dizaine de magasins. Seul point commun, assure Zalda, une habitante, ils appartiennent tous à des étrangers.
Les manifestants disent qu'ils ne veulent pas des Pakistanais et de tous les autres. Ils ne veulent pas d'eux dans cette rue. Ils disent que leurs produits sont trop chers et qu'ils volent leur travail.
Le porte-parole de la communauté, Sivouyi Lenama, explique l'action des criminels et le ras-le-bol de ses concitoyens.
Il semble que les voleurs ont compris la souffrance économique de notre peuple. Les gens veulent du travail et le gouvernement ne nous donne aucune solution. Et on a besoin d'une sortie de crise très rapidement dans ce pays.
La police est-elle accusée de n'avoir rien fait ou d'avoir répondu trop tard, parfois même d'avoir pris le parti des voleurs ? Sébastien est un commerçant sud-africain qui n'a pas été visé par les attaques.
C'est mauvais pour le business, c'est mauvais pour l'image de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas quelle va être la prochaine étape, mais le gouvernement ne fait pas grand-chose. Ça leur a pris toute la matinée pour agir. La police ne faisait que regarder les voleurs au début. On va voir ce qu'il se passe dans les prochains jours.
Des rumeurs sur les réseaux sociaux font état de nouveaux pillages planifiés aujourd'hui.
Reportage donc au début de la semaine. Parmi les victimes de ces affrontements, des Nigérians, ce qui a déclenché des violences contre les intérêts sud-africains au Nigeria. Après l'Afrique du Sud, restons en Afrique australe avec la mort hier du très controversé fondateur du Zimbabwe, Robert Mugabe. On vous en a beaucoup parlé, on y revient ce matin, Alexandra Branjon.
L'image de Robert Mugabe, c'est cet homme en costume 3 pièces, courtois, intelligent, mais également solitaire, secret et intransigeant. L'Afrique se souviendra certainement du jeune instituteur, militant de la décolonisation, qui tiendra tête aux colons britanniques. À l'indépendance, il devient premier ministre, prône la réconciliation avec les Blancs et investit dans l'éducation et la santé. L'Occident lui se rappellera de ses dérives qui commencent seulement 3 ans après son arrivée au pouvoir, le massacre de Gukurahundi, soit près de 20 000 débellés, l'ethnie de son principal rival politique. Sa réforme agraire des années 2000 avec l'expropriation violente des terres des fermiers blancs et enfin les élections dans la violence et la répression qui entraîneront des sanctions de la communauté internationale. Pour les Zimbabwéens, ces dernières années, Robert Mugabe est devenu l'homme qui a détruit l'économie du pays, chômage, corruption, file d'attente devant les banques, l'homme devenu despote qui écarte ses compagnons de lutte pour permettre à sa femme Grace Mugabe de lui succéder. La manœuvre a d'ailleurs provoqué sa chute. En novembre 2017, alors qu'il limoge son vice-président Emmerson Mnangagwa, l'armée intervient et le force à démissionner. Mugabe vit alors ses derniers mois amer et isolé dans sa luxueuse résidence de Blue Ruth à Harare.
Le Cameroun, maintenant, Antoine Madelin, avec l'ouverture hier devant le tribunal militaire de Yaoundé du procès de l'opposant Maurice Kanto et de 91 partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Julie Vandal.
Le tribunal militaire de Yaoundé ne connaît pas de répit. Après le procès du leader sécessionniste Julius Sissiku Ayuktabe, condamné à la prison à vie le 20 août dernier, c'est au tour de Maurice Kamto de faire face à cette même juridiction militaire avec 91 co-accusés. Parmi eux, Christian Penda Ekoka, ex-conseiller économique du président Paul Biya, Michel Ndoki, avocate et cadre du MRC, ou encore le célèbre rappeur Valsero, connu pour ses textes critiques à l'égard du régime. Quasiment tous comparaissent pour insurrection, rébellion, hostilité envers la patrie, attroupement à caractère politique, détérioration et destruction de biens publics et outrage au chef de l'État. Des motifs d'inculpation pour lesquels ils encourent de très lourdes peines. Il y a 5 mois, les avocats avaient contesté la compétence du tribunal militaire pour juger des civils, mais la cour d'appel a finalement tranché la semaine dernière, estimant la requête irrecevable. Les avocats ont donc saisi la cour de cassation. En attendant, les inculpés s'estiment victimes d'un procès politique. Ils accusent les autorités de vouloir décapiter le MRC et toute forme d'opposition au Cameroun, quand Yaoundé juge qu'il s'agit d'une affaire de droit commun.
À suivre évidemment dans nos journaux. Suite d'une semaine d'actualité, j'ajoute dans l'actualité africaine le voyage du pape au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice. On vous en parle également dans nos journaux. Et de fortes inondations à Niamey dans tout le pays. Il y a des dizaines de morts et plus d'une dizaine de milliers de sinistrés donc au Niger. Je salue Jonas qui nous écoute, qui nous écrit et qui veut attirer notre attention. C'est fait sur la xénophobie en Afrique du Sud et il se demande pourquoi les Sud-Africains ne veulent plus des étrangers dans leur pays. Antoine Madelin, vous vouliez souligner la situation du Zimbabwe avec la mort donc de Robert Mugabe.
Oui, mais d'ailleurs ces situations se ressemblent d'une manière ou d'une autre, même avec le Cameroun ou l'Afrique du Sud. D'abord aussi je trouve que la mort de Mugabe peut être l'occasion de faire un éclairage sur ce qui se passe au Zimbabwe depuis son départ. Et la déception, finalement, que nous avons eue, nous, militants de droits humains, après l'arrivée au pouvoir d'Emmerson Mnangagwa, oui. Qui a renforcé la répression dans son pays, où la famine se développe, l'hyperinflation s'est accentuée, des effondrements de la situation économique, des coupures d'électricité à répétition, auxquelles se sont ajoutés un cyclone qui fait qu'on assiste véritablement à une catastrophe humanitaire dans ce pays, une pauvreté sociale particulièrement problématique et face à laquelle les autorités ont renforcé le système répressif et l'arsenal répressif. Quand il y a eu des manifestations contre la hausse des prix du carburant en janvier ou contre le retard dans la publication des élections il y a un an, elles se sont soldées l'une par 17 morts, l'autre par 6 morts, des centaines d'arrestations, un dirigeant d'un parti d'opposition a été assassiné. Aujourd'hui, on reste dans une situation où l'espoir démocratique qu'avait pu fournir le départ de Mugabe et c'est complètement évanoui et nous avons aujourd'hui à faire face à une situation voire probablement aujourd'hui une répression beaucoup plus importante. Ce qui est problématique dans une situation économique et sociale particulièrement désastreuse. Et c'est en ça qu'on peut rejoindre la situation en Afrique du Sud aussi, où les manifestations sont aussi la preuve d'une situation économique et sociale désastreuse pour une population.
Avec toujours des boucs émissaires. Hein.
Avec des boucs émissaires qui sont ici pour l'Afrique du Sud, les migrants, là où les Sud-Africains devraient plutôt se retourner vers leurs propres autorités et demander un changement de gouvernement plutôt que d'accuser les étrangers de manière à ce que les régulations social soient mises en place, de manière à ce que les richesses économiques soient réparties de manière beaucoup plus équitable au sein des propres sociétés. C'est en tout cas ce que demandent nous, les associations de défense des droits humains en Afrique du Sud, Lawyers for Human Rights, notre organisation du Zimbabwe, d'Afrique du Sud.
Partons pour la République démocratique du Congo. Maintenant, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a fait une incursion dimanche à Beni, où les populations attendent, on le sait, des réponses face à l'épidémie d'Ebola et aux violences des groupes armés aussi. Écoutez ce reportage de notre envoyé spécial, Florence Maurice.
Ces pavillons sont pour des malades.
La visite débute au chevet des malades. Antonio Guterres salue à travers une paroi transparente quelques patients suspectés d'avoir contracté Ebola, puis s'adresse au personnel soignant pour vanter leur courage.
Merci infiniment de votre travail exceptionnel. Et félicitations parce que les choses sont en train de s'améliorer.
L'un de ses soignants témoigne de son quotidien difficile. Il travaille ici depuis plus d'un an.
C'est un travail de sacrifice. Nous sommes en train de nous donner corps et âme pour éradiquer cette maladie. Ce sont nos frères qui sont en train de mourir.
À la sortie, 4 guéris d'Ebola, dont un nourrisson, des vainqueurs, comme on dit ici, sont venus accueillir Antonio Guterres. Vous êtes un héros, dit-il à l'un d'entre eux, avant de lancer cet appel.
À tous ceux qui subissent le traitement et à tous ceux qui sont guéris, il faut que vous soyez nos porte-parole. Il faut dire à tout le monde que tous ceux qui viennent ici peuvent se guérir. Ne cachez pas les symptômes, ne cachez pas la peur. Venez profiter de cette opportunité pour vaincre la maladie et pour nous aider à nous tous à vaincre l'Ebola.
Un message entendu par Bosco Paluku, l'un des 4 guéris. Il promet de faire passer le message, mais nous confie à l'attention du secrétaire général de l'ONU qu'à ses yeux, y compris pour vaincre Ebola, la priorité reste le retour de la sécurité dans ce territoire en proie aux groupes armés.
Et en décès, toujours notez aussi que le Premier ministre Sylvia Lunga a demandé l'investiture de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. La situation politique à Kinshasa est à suivre également avec Florence Maurice. C'est une date importante pour la justice en Afrique et singulièrement dans l'histoire du Burkina Faso. 8 accusés au procès du putsch manqué de septembre 2015 dans ce pays, Burkina Faso, jugés par contumace mardi à Ouagadougou, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 30 ans de prison. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué, ont été condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison. Karine Franck.
Pour le président Kabore, ces condamnations viennent à point nommé. Critiqué pour ses difficultés à faire face aux défis sécuritaires, son manque de décisions fortes, le chef de l'État avait fait de la justice une de ses promesses de campagne. À l'issue d'un procès avant tout emblématique, voilà donc aujourd'hui ce que l'on imaginait intouchable, reconnu coupable et condamné. Mais le chef de l'État est désormais attendu sur le terrain de la réconciliation, refusant que des anciens dignitaires puissent bénéficier d'une quelconque impunité au nom d'un pardon nécessaire. Le président Kabore a toujours assuré qu'il n'y aura pas de réconciliation avant que la justice ne soit rendue. Aujourd'hui, à un an de la présidentielle de 2020, il pourrait avoir intérêt à ouvrir le jeu. Il sait aussi que des généraux comme Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé comptent de nombreux fidèles dans les rangs de l'armée et certains, au sein du pouvoir, n'écartent pas l'idée d'une grâce éventuelle après un grand forum de réconciliation. Reste que le temps judiciaire ne correspond pas toujours au temps politique. D'abord, les condamnés peuvent faire appel et puis d'autres procès sont prévus, tout aussi emblématiques comme celui du dernier gouvernement de Blaise Compaoré ou celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
Et terminons pour cette semaine notre voyage en Afrique, où il est démontré que l'armée, en l'occurrence son chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, veut une élection présidentielle mi-décembre en Algérie. Pas si vite, on dit des centaines d'étudiants qui ont manifesté mardi à Alger. Léonard Vincent.
Jusque-là, le puissant général Gaïd Salah s'était contenté d'appeler à accélérer la marche vers une élection. Mais cette fois, il est plus précis. Il faut enclencher le 15 septembre la procédure légale lançant le scrutin présidentiel, a-t-il déclaré dans un discours. Ce lancement ouvrirait la voie à un vote dans les 3 mois, soit probablement à la mi-décembre. Un homme est désormais sous pression, le président par intérim, Abdelkader Ben Salah. Lui a déjà mis en place une instance chargée de faire des recommandations pour la tenue d'une présidentielle crédible. La déclaration du chef des armées sonne donc, sinon comme un ordre, du moins comme un coup de pression. Une instruction, explique un journaliste algérien, peu respectueuse du protocole. Les manifestants et leurs représentants s'opposent depuis des mois à l'idée d'une présidentielle prématurée. Ils exigent avant tout une profonde réforme de l'État et de la Constitution, une option rejetée par le général, lequel s'est contenté d'évoquer la révision de quelques textes de la loi électorale, mais pas plus, et qui a sévèrement mis en garde ceux qui s'opposeraient à cette feuille de route. Pour les militaires, explique un observateur, le vide institutionnel affaiblit l'Algérie face à ses adversaires et selon eux, cela ne peut pas durer au-delà de 2019.
À noter aussi dans l'actualité africaine, la formation du gouvernement soudanais, conformément aux accords du 17 août dernier, 18 ministres, dont 4 femmes. Vous voulez dire, Antoine Madelin, un mot sur la situation en République démocratique du Congo à partir du reportage de Florence Maurice.
Oui, pour regretter cette catastrophe humanitaire, hein. On a déjà dénombré plus de 2000 morts. C'est le deuxième plus grande affection d'Ebola qui aujourd'hui touche le Nord Kivu, l'Ituri. Une urgence sanitaire mondiale, comme l'a dénoncé l'OMS, mais avec et sur la particularité de la région, une crise qui intervient dans une région déjà traumatisée par des décennies de violences, de crimes, et qui rend du coup la réponse humanitaire d'autant plus compliquée. Tant et si bien que quand l'armée escorte les convois humanitaires de médicaments, l'armée, ce sont ceux qui sont les auteurs de crimes de guerre dans cette région. Et donc du coup, pour la population affectée, il est extrêmement difficile de comprendre d'une part l'ampleur du danger médical, mais aussi cela amène à une véritable instrumentalisation politique de l'Ebola face à une population qui n'a pas suffisamment de billes pour comprendre les enjeux auxquels elle est confrontée. Donc je trouve que cela rappelle en comment et combien il faut utiliser toutes nos ressources pour résoudre ces crises et travailler à raconter cette violence de manière enfin de pouvoir l'affronter et la dépasser.
Le coup de pression des militaires en Algérie pour l'organisation d'une élection présidentielle rapide d'ici la fin de l'année.
Oui, c'est un coup de force. Donc le reportage l'a bien démontré, parce qu'en effet il y avait un panel de médiation qui avait été mis en place avec la société civile algérienne, laquelle d'ailleurs est tout aussi exemplaire qu'elle peut l'être à Hong Kong. Nous sommes particulièrement fiers et honorés que la Ligue algérienne de défense des droits humains soit à la pointe de ces combats, avec des messages pacifiques, des messages de réforme, des messages de renforcement de l'état de droit, de lutte contre la corruption. C'est ça finalement le message de la FIDH, je dois pouvoir dire aujourd'hui.
Merci Antoine Madelin d'être venu commenter l'actualité lourde, encore une fois, du monde ces derniers jours. Je rappelle que vous êtes directeur du plaidoyer à la FIDH. Merci.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée par Pauline Leduc. Je vous retrouve demain, dimanche, pour le magazine Idée cette fois. Et une nouvelle saison également. Nous parlerons d'un philosophe espagnol dont la réflexion revient à l'ordre du jour. Il s'agit d'Ortega y Gasset avec notre invité David Usal. Vous saurez tout ou presque sur ce penseur du XXe siècle, du siècle dernier. Donc demain dimanche à 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.